souvent, les gens pensent que le leadership, hein, c'est donner des ordres, mais pas du tout. T'sais, le leadership, c'est beaucoup plus l'art d'influencer. J'ai toujours pensé que c'était un art. Puis j'ai toujours vu que les plus grands leaders que j'ai côtoyés, c'était des gens qui disaient pas aux gens quoi faire, mais c'était des gens qui cherchaient à influencer. Puis des fois, c'est subtil, mais je pense que d'aller chercher le meilleur des gens puis d'influencer les gens, c'est beaucoup ça, le leadership.
Chaque année, l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de La Personnelle, assureur de groupe auto, habitation et entreprise. Bonjour et bienvenue. Merci d'être à l'écoute du balado Les Remarquables de l'Université Laval. Mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé de l'Université Laval en communication publique, et j'ai l'honneur aujourd'hui de m'entretenir avec Éric Martel, lauréat du prix Grand Diplômé 2024. Avant de commencer l'entretien, laissez-moi vous présenter quelques faits saillants de sa brillante carrière. Gestionnaire aguerri et leader reconnu, Éric Martel a contribué de façon remarquable au succès de grandes organisations, tant au Québec qu'à travers le monde. Président et chef de la direction chez Bombardier depuis 2020, Éric Martel a également occupé les fonctions de président-directeur général d'Hydro-Québec. Honoré à plusieurs reprises au cours de sa carrière, M. Martel a notamment été élu Fellow de l'Académie canadienne de génie en 2022, en plus d'être nommé l'une des 5 personnes les plus influentes du Québec dans un palmarès du magazine L'Actualité en 2018. Engagé au sein de sa communauté, M. Martel est membre du Conseil canadien des affaires depuis 2020, en plus de s'impliquer auprès de l'organisme Centraide du Grand Montréal depuis 1998. Éric Martel, bonjour!
Oui, bonjour!
C'est un privilège de m'entretenir avec vous, M. Martel. D'abord, toutes mes félicitations. Vous êtes lauréat du prix Grand Diplômé de l'Université Laval 2024. Qu'est-ce que cela vous fait de recevoir cet honneur de votre université?
Ben écoutez, c'est toujours un honneur d'être reconnu par sa propre université. J'ai reçu d'autres prix avant d'autres universités, mais d'être reconnu par l'université que j'ai fréquentée déjà à la fin des années 80, début 90, mm-hmm. Ça fait déjà un bout de temps, c'est particulier. Et je vous avoue, je reçois ça quand même avec beaucoup d'humilité. C'est un prix qui est quand même prestigieux. Et puis, je sais que je suis aujourd'hui où je suis parce que j'ai été chanceux pendant toute ma carrière. J'ai eu des équipes extraordinaires qui m'ont entouré. Alors, ben écoutez, ça fait c'est particulier de le recevoir de l'université qu'on a fréquenté il y a quand même déjà quelques décennies.
Oui, absolument. Au cours de la dernière décennie, vous avez occupé deux des postes les plus convoités au Québec par des gestionnaires, soit le poste de PDG chez Hydro-Québec et celui de président et chef de la direction chez Bombardier. Est-ce que dans votre plan de carrière, vous aviez envisagé occuper les plus hautes fonctions au sein de ces deux grandes organisations?
Vraiment pas. Non, écoute, c'est arrivé, je pense que c'est arrivé un peu... avec le cheminement que j'ai eu au cours des années. Hein, j'ai commencé ma carrière... en fait, j'étais très chanceux au début parce que quand j'ai gradué, certains se rappelleront en 1991 que le marché de l'emploi était très difficile. C'était un marché, je pense que de mémoire, on était une centaine de finissants puis on était moins de 10. Je pense qu'il y avait un emploi à la fin de l'année. Alors, j'ai débuté. Alors, j'ai été chanceux parce que j'ai pu commencer à travailler immédiatement. En fait, c'était chez Procter & Gamble. C'était mon premier travail. Mm-hmm. Je me suis ramassé dans une usine à travailler avec des dans la production et aussi la maintenance. Et c'est là un peu que, bon, j'ai beaucoup, beaucoup appris au niveau leadership, comment on travaille avec les gens de près. Fait que c'était pas dans mon plan de carrière. Au début, je pense que j'ai rêvé, après quelques années, d'être le directeur de l'usine. Mm-hmm. Puis bon, pour toutes sortes de raisons, cette usine-là a fermé. Je suis allé dans d'autres boîtes. Comme vous le disiez, je me suis ramassé à mon nez chez Bombardier au début des années 2000, ensuite de ça, chez Hydro pendant presque 5 ans. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et un retour chez Bombardier il y a quelques années. Mais jamais je n'avais anticipé être le PDG ni de Bombardier, ni de Hydro-Québec. Mais j'ai eu énormément de plaisir à faire ces deux rôles-là. Ce sont deux entreprises fantastiques qui font rayonner le Québec. Évidemment, Hydro-Québec est beaucoup plus présente au Québec. Mais Bombardier, c'est une compagnie très internationale, alors qui fait refléter. Mais malgré ceci, Hydro-Québec est quand même très connu partout dans le monde en termes d'une référence au niveau de la production puis la distribution d'énergie. Mais c'est deux belles entreprises, deux joyaux. Alors, je me sens vraiment privilégié d'avoir eu la chance de leader ces deux organisations.
Et là, bon, évidemment, peu de personnes peuvent se targuer d'avoir eu l'occasion de participer à des processus d'embauche comme ceux chez Hydro-Québec et chez Bombardier. Comment on se prépare à une entrevue pour le poste de PDG chez Bombardier?
Ça, c'est une très bonne question. En fait, dans mon cas, c'était un peu particulier. Hein? La compagnie, souhaitait faire un changement, mais ils me connaissaient. Alors, c'était un processus, je vous dirais, peut-être un peu moins formel que ce qui est fait habituellement. Les gens me connaissaient déjà. J'avais été aussi le président des avions d'affaires avant de quitter, donc les avions privés. Qui était une division à l'époque de 7-8 milliards de dollars de revenus. J'ai quitté pour aller chez Hydro-Québec. Alors pour moi, aujourd'hui, comme vous le savez, on a réorganisé Bombardier au complet. Cette année, on aura un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars américains. Alors, on a toujours presque 33 000 employés quand on compte nos fournisseurs au Canada. On a à peu près 12 000 nous-mêmes et on en a 18 000 un peu partout sur la planète. Mais le processus, écoutez, c'était un processus où ce que j'ai rencontré des membres de conseil d'administration, plusieurs en fait, parce qu'on devait, c'était important d'être... de bien s'entendre quand on est le PDG, parce que c'est nous qui allons donner le ton par la suite, mais de bien s'entendre avec le conseil d'administration et dans le cas de Bombardier, tu sais, avec les membres de la famille qui sont sur le conseil d'administration, sur la suite des choses. C'est quoi l'orientation qu'on veut donner à l'organisation? Parce que si ça coïncide pas, ben c'est pas nécessairement quelque chose qui est réalisable. Fait que je pense qu'on avait des vues qui étaient extrêmement similaires. Je connaissais bien, j'avais le grand avantage de bien connaître la boîte pour avoir été là presque 15 ans avant puis d'avoir fait plusieurs postes dans les opérations manufacturières. J'avais été président de la division de services. Alors, on avait une présence internationale et tout ça. Fait que c'était un processus... oui, je m'étais préparé, mais je dirais que je m'étais préparé comme 15 ans en travaillant ici parce que je connaissais la boîte
exact.
Comme le fond de ma poche. Alors, évidemment, pendant l'entrevue, ben ça se distinguait probablement de peut-être d'autres candidats.
Justement, quelles sont les qualités, les compétences que vous avez et qui vous ont le mieux servi, vous diriez, dans votre carrière de gestionnaire jusqu'ici?
Bien, je pense que, je suis quelqu'un de curieux. Dans notre formation d'ingénieur, on apprend à résoudre des problèmes. Alors, pour moi, c'est un petit peu inné de faire de la résolution de problèmes. Mais je pense que c'est surtout sur le plan humain que les leaders se distinguent. Alors, évidemment, ces habiletés-là, ce que j'en ai appris à l'école, nous demeurent toujours avec nous et en nous. Mais je pense que, si vous parlez aux gens avec qui ont travaillé avec moi pendant plusieurs années, je suis toujours quelqu'un qui est demeuré humble. Je suis quelqu'un qui reste toujours, comme on dit dans le jargon, connecté avec son plancher, avec, tu sais, je suis dans les usines, j'aime ça aller poser des questions aux gens, comprendre ce qui se passe. Je suis quelqu'un de facile à aborder. Alors, cette humilité-là, je pense que, et cette connexion-là avec les gens, je pense, m'a toujours bien servi. Puis ça, c'était comme juste naturel pour moi de faire ça. Et, je pense que mon authenticité aussi a toujours été quelque chose qui ressort. Je suis quelqu'un qui dit les vraies choses, qui va pas se gêner de poser les vraies questions. Et je dis toujours à mes gens, c'est pas vous qui travaillez pour moi, c'est moi qui travaille pour vous. C'est la job du leader, c'est souvent de donner une direction à l'organisation après avoir écouté puis de bien comprendre son marché, mais aussi ses employés, ses clients. Mais une fois que la direction est donnée, après ça, mon boulot, c'est de supporter les équipes qui sont en place. C'est de les aider à vendre des avions, c'est de les aider avec des fournisseurs, s'il y a des enjeux avec les fournisseurs, c'est de m'assurer qu'ils ont les ressources humaines, monétaires, disponibles à leur disponibilité pour faire arriver puis rencontrer leurs objectifs. Fait que, tu sais, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça, le management. Puis je pense que l'aspect d'être comme je disais, d'être humble, d'être très respectueux des gens, tu sais, pour moi, là, il n'y a pas de différence. J'ai juste un rôle différent, évidemment, dans l'entreprise. Mais je sens que j'ai juste un rôle différent, c'est tout. Comme dans une équipe de hockey, il y en a un qui est gardien de but, l'autre est défenseur. Moi, je fais le rôle de PDG. Mais on a tous un rôle, tous et chacun qui est d'une grande importance.
Monsieur Martel, vous êtes entré en fonction à titre de président et chef de la direction chez Bombardier le 6 avril 2020. en pleine crise sanitaire. Une période qui a été extrêmement difficile pour plusieurs secteurs d'activité, y compris celui de l'aviation. Ajoutons à cela une période de restructuration importante chez Bombardier qui allait mener à la vente du volet transport à Alstom en janvier 2021. Aujourd'hui, près de 4 ans après votre entrée en poste, Bombardier a regagné la confiance des actionnaires. La valeur de l'action a bondi de plus de 600% depuis son plus bas en 2020. Vous disiez dans une entrevue que l'entreprise a maintenant un portefeuille de revenus et une structure plus résiliente, notamment par l'augmentation de vos revenus d'après-vente, donc liés à l'entretien de vos avions déjà vendus. Quelles sont les prochaines étapes pour Bombardier et quels sont les défis à venir pour vous en tant que gestionnaire?
Mais je pense qu'aujourd'hui, vous faites un point important. On a une entreprise qui est beaucoup plus focus, je vais dire ça comme ça, excusez-moi l'anglicisme, mais qu'avant, on cible bien notre travail. Alors, on est axé. Oui, on fait des avions, mais on n'est pas dans tous les marchés d'avions. On fait des avions privés. On a une réputation internationale à ce niveau-là. Et ce qui était important pour moi, qui était évidemment une chose qu'on a fait rapidement à mon arrivée, c'était de garder cette cible-là. Alors, on a décidé rapidement de dire, on fait des appareils qu'on appelle de grande taille, qui sont comme notre famille de Global, et les appareils de moyenne taille, les Challenger. On a pris une décision difficile d'arrêter de faire des petits avions comme Learjet, mais aussi on a pris une décision qui était, je pense, qui nous a salués, c'était de grandir, comme vous le disiez, la division de services. Bombardier, en avion d'affaires, on a plus de 5000 avions qui volent partout sur la planète. Il y en a dans tous les pays. Jamais j'atterris dans un aéroport que je vois pas des Challenger ou des Global ou même des Learjet encore parce qu'on continue de servir cette flotte-là. Mm-hmm. Alors, nos avions sont partout dans le monde. On a rajouté l'an passé près de 1 million de pieds carrés de centres de service parce qu'on capturait au niveau de la maintenance seulement à peu près 32 % des parts de marché. Aujourd'hui, on est environ à 46 %. Donc, cette présence-là a fait qu'on a attiré beaucoup de gens, beaucoup plus de nos clients à venir chez nous faire la maintenance. Et c'est important parce que c'est bien de designer, fabriquer des avions. Mais par contre, je pense que de les servir après aussi, c'est un marché qui est quand même lucratif. Les gens préfèrent amener leur avion chez le fabricant s'ils sont capables de le faire. Alors, on a développé ça. Dans le futur, pour revenir à votre question, on a eu donc une croissance importante. La première année que j'étais ici, on a fait à peu près 5 milliards et quelques de revenus. Cette année, on cible 9. Alors, on a une croissance importante. L'an passé, on a fait 8. Donc, c'est une croissance de 16, à peu près 15-16%. Et la suite des choses est bien, tu sais, on continue de bien vendre nos produits existants. Mm-hmm. Notre business de service continue de grandir. Mais aussi, on a structuré de façon importante notre business de défense. Vous savez, nos avions, on a la particularité, on est chanceux. Au Canada, on fabrique, on est capable de designer, fabriquer des avions de A à Z. Vous savez qu'il y a très peu de pays, il y a 5-6 pays dans le monde qui sont capables de faire ça. Alors, c'était une des raisons stratégiques pour lesquelles on était resté dans ce business-là, parce qu'on disait, ben, il n'y a pas beaucoup, les compétiteurs qu'on a aujourd'hui sont probablement les mêmes compétiteurs qu'on aura dans 10 ans, 15 ans. Et on va grossir ce business-là. Puis entre autres, en défense, à cause de la technologie, de ce que nos avions sont capables de faire. Vous savez que le Global 7500 qu'on fabrique ici, c'est l'avion d'affaires qui vole le plus loin, le plus haut, le plus vite sur la planète. Puis là, on va arriver avec le Global 8000. Fait que je pense qu'il faut être fier comme Québécois, comme Canadien, de dire que c'est ici qu'on fabrique et qu'on a développé ce produit-là puis qu'on le manufacture aujourd'hui. Dans le monde où on est, malheureusement, la géopolitique s'est complexifiée, je dirais, dans les dernières années. Alors, les pays, que ce soit le Pentagone est un client de Bombardier, les Allemands achètent de chez nous plusieurs pays et on est capable de leur offrir des produits qui sont d'une avancée pour eux importante. Alors, un avion qui vole plus haut, plus vite, qui va faire plus de distance, ça a des bénéfices. Mm-hmm. Et comme les équipements qu'on met à l'intérieur de ces avions-là sont de plus en plus miniatures, pensons à notre téléphone, là, les équipements électroniques sont beaucoup plus petits qu'ils l'étaient dans le passé. On n'a plus besoin de ces gros appareils-là pour être capable d'installer les équipements puis de voler. Alors aujourd'hui, Bombardier arrive avec une solution qui est extrêmement avantageuse pour eux, moins coûteuse, moins de coûts d'opération, on produit moins de carbone d'émissions, c'est-à-dire que des solutions du passé. Fait qu'on est très bien positionné dans le futur pour croître cette division-là.
Le changement de nos habitudes et les innovations seront essentiels à la réussite de la transition énergétique que nous amorçons. On parle évidemment beaucoup de l'électrification des transports. Et là, j'imagine que vous me voyez venir, M. Martel. Peut-on envisager à court ou moyen terme des avions 100% électriques?
Écoutez, je pense qu'un jour, on va y arriver. Mm-hmm. Mais c'est sûr que si on parle des petits avions qui sont capables de faire des petites distances, quelques centaines de kilomètres, on risque d'arriver là dans les 5-10 prochaines années. Cependant, les technologies, entre autres au niveau des batteries, entre autres, même si on pense à l'hydrogène, parce que bon, mm-hmm. ça prend aussi des ce qu'on appelle des fuel cells pour être capable de reconvertir l'hydrogène en électricité. On aura besoin de beaucoup améliorer les technologies. Aujourd'hui, c'est le défi parce qu'un avion consomme beaucoup d'énergie, c'est au décollage. Hein, tu sais, faut lever cet appareil-là qui pèse des centaines de milliers de livres avec des passagers en plus, de façon sécuritaire. Et aujourd'hui, si on rajoute le poids, tu sais, on fait ces calculs-là tout le temps. Si je prendrais les technologies existantes aujourd'hui, là, mon avion serait même pas capable de décoller parce qu'il serait trop lourd. Alors aujourd'hui, on n'est pas rendu là. Mais je pense que il y a beaucoup de recherches qui se font, que ça soit au niveau des piles, des batteries, que ça soit au niveau de l'hydrogène aussi, pour être capable un jour, je pense, de voler. Est-ce qu'il y aura, moi, je pense qu'il y aura une génération un peu comme on a eu sur les voitures hybrides avant d'arriver à une solution totalement électrique. Et d'ailleurs, Bombardier fait déjà. Hein, t'sais, aujourd'hui, nous, on a rajouté beaucoup de composantes électriques, beaucoup de programmation aussi de parties software a cru de façon importante. Je disais à quelqu'un la semaine dernière, quand on a fait le Challenger 300 au début des années 2000, on avait quelques centaines de milliers de lignes de code. Sur un global, il y en a 60 millions. T'sais, fait que on a remplacé par du software des composantes mécaniques. Donc, ça a allégé les avions, on les a rendus plus électriques aussi. Et ça fait ben, que nos avions ont des meilleures performances qui étaient capables. Et Bombardier, en innovation, vous parlez d'innovation, a toujours été un innovateur. Vous savez peut-être aujourd'hui, on a un prototype qui s'appelle l'EcoJet. C'est un drone qui vole, qui a quand même d'un aile à l'autre là, une longueur de 18 pieds. Alors, c'est un avion qui est... On a commencé avec 36 pouces, puis là, on est rendu avec 18 pieds. Et on vole un avion avec une forme complètement différente. C'est une forme où ce que l'aile et le fuselage sont faits d'une seule pièce. Et on réussit à diminuer, en faisant ça, les frictions avec l'air. Donc, améliorer l'aérodynamique. Et juste ça, ça améliore d'à peu près 20% la consommation, la production d'émissions. Alors, il y a beaucoup d'avancées technologiques. Puis on a une historique, je dirais, chez Bombardier. Puis quand on regarde même notre industrie, si je regarde les 50 dernières années, c'est depuis le début des années 60, le même avion qui fait les mêmes performances consomme à peu près 50% moins d'énergie que dans le temps. Mm-hmm. Alors, on va continuer dans cette voie-là. On parle de matériaux légers. Il y a plusieurs choses qui se font. Et on a comme objectif, comme industrie, d'ici 2050, d'être carbone neutre. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Ça va venir des carburants, ça va venir des moteurs, ça va venir justement de plus d'utilisation d'électrique. Mais, tu sais, présentement, ce qu'on regarde, c'est qu'à court terme, tu sais, un avion 100% électrique, comme je disais tantôt, on va probablement passer par, comme l'automobile, un peu par des familles hybrides.
Absolument.
Et un jour, on va s'y rendre.
Et en matière de production et d'approvisionnement en énergie, comme on peut supposer que vous vous êtes intéressé à la question dans une autre vie, quels sont les principaux défis auxquels nous faisons face au Québec et même à travers le monde, selon vous?
Bien, l'énergie, hein, c'est toujours c'est un sujet passionnant. J'ai eu beaucoup de plaisir dans mes années à Hydro-Québec. J'ai appris beaucoup. On a une situation très enviable ici, évidemment, quand on parle de sources de production d'énergie renouvelable et tout. Mm-hmm. On part avec de l'eau, après ça, on a beaucoup d'éolien qui fait très bien. Bon, fait qu'on est... Il y a des endroits dans le monde qui n'ont pas ça. T'sais. Fait que je pense que les gens vont devoir être ouverts d'esprit avec plusieurs solutions. Je pense que ça va être un cocktail de solutions. Je pense que l'efficacité aussi énergétique est importante parce que, tu sais, on le sait, au Québec, on consomme beaucoup d'énergie par personne. Je pense qu'il y a des moyens technologiques aujourd'hui, je pense avec l'intelligence artificielle et tout ça, ce qu'on peut réduire chaque individu, notre façon, de façon importante. Alors, j'aime toujours dire que l'énergie, qu'on consomme pas, c'est elle qui coûte le moins cher. T'sais, parce que sinon, mm-hmm. ça devient dispendieux.
Exact.
Mais je pense que dans d'autres endroits dans le monde, on va devoir être ouvert à des solutions nucléaires, on va devoir être ouvert à d'autres choses. Entre autres, le nucléaire, mm-hmm. les gens, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est la source la moins polluante. C'est une des sources les moins polluantes en termes d'émissions. Bon, mm-hmm. après ça, il y a toute la gestion des déchets qui est d'une certaine complexité. Mais tu sais, le savoir-faire est là. Fait que bon, c'est toujours un peu controversé quand on en parle, mais en même temps, je pense que ce sont des choses qu'on devra considérer. Je pense qu'on va tous devenir aussi, tu sais, éventuellement, on va construire des maisons, probablement avec plus de panneaux solaires, on va tous devenir des petits producteurs, tu sais. Mm-hmm. Alors, tout ça mélangé ensemble. Fait que je pense qu'il faut qu'il y ait une ouverture. Des fois, j'entends dire, tu sais, les gens sont très catégoriques, on va faire juste ci, on va faire juste ça. Je pense qu'il va falloir, entre autres dans d'autres endroits sur la planète où ils n'ont pas bon, les rivières qu'on a puis les capacités hydrauliques, de considérer d'autres solutions.
On vient de parler d'électrification. Je me permets donc de faire le lien avec le fait que vous êtes diplômé en génie électrique de l'Université Laval. Quel impact votre formation à l'Université Laval a-t-elle eu sur votre vie et votre carrière?
Bien, je pensais tout à l'heure, bien, je l'ai un peu mentionné un peu plus tôt, je pense que les ingénieurs, on le sait pas quand on est à l'école, mais on est vraiment formé à être des bons problem solvers, comme on dit. Notre boulot, là, c'est de régler des problèmes puis de trouver des solutions. Et ça développe, notre esprit est un peu développé comme ça. Puis c'est aussi de le faire de la bonne façon. Je pense que ma formation à Laval, bien évidemment, tu sais, on était là pour trouver des solutions, régler des problèmes. Et les ingénieurs, que ce soit des problèmes, que ce soit mécaniques ou électriques ou de tout ordre, c'est un petit peu dans notre... Puis aujourd'hui, je le sens, c'est encore quelque chose de comment je pose mes questions à mes équipes, comment je vais les amener dans une direction, ce que je vais m'assurer qu'ils vont réfléchir, tu sais, à toutes les vraies causes du problème, pas essayer de m'inventer une solution sur le champ. Fait que cette façon de réfléchir-là, qui est très méthodique, je dirais même, on vient comme ingénieur, on le fait de façon très intuitive. Mm-hmm. Mais finalement, c'est très méthodique aussi en même temps. Bon, je pense que, tu sais, l'université était aussi un endroit où tu apprends à travailler en équipe. Hein? Moi, j'ai toujours, on faisait beaucoup, surtout en génie électrique à l'époque, j'imagine que c'est encore pareil, beaucoup de laboratoires, beaucoup de travaux d'équipe, beaucoup de remises de projets, beaucoup de présentations en équipe. Et ça, je pense que le travail d'équipe dans le milieu du travail, c'est essentiel. Dans un domaine comme le nôtre ou même celui que j'avais à Hydro-Québec, c'est toujours quand on met nos meilleurs esprits ensemble qu'on ressort avec la meilleure solution. Là. C'est rare qu'une personne seule va arriver qu'une meilleure réponse qu'un ensemble d'individus. Alors moi, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué pendant mon bac, beaucoup appris aussi. À travers tout ça aussi, tu sais, il y a un aspect leadership. Quand tu organises ton équipe, tu travailles avec ton équipe, tu apprends, puis c'est de le faire de la bonne façon. J'avais fait d'autres choses aussi avant. J'ai été dans les cadets de l'armée, j'ai été officier, j'ai fait un paquet de trucs. Fait que ça, c'était mon autre bac, je dirais, que je faisais. Mais souvent, les gens pensent que le leadership, hein, c'est donner des ordres, mais pas du tout. T'sais, le leadership, c'est beaucoup plus l'art d'influencer. J'ai toujours pensé que c'était un art. Puis j'ai toujours vu que les plus grands leaders que j'ai côtoyés, c'était des gens qui disaient pas aux gens quoi faire, mais c'était des gens qui cherchaient à influencer. Puis des fois, c'est subtil. C'est par des questions. Des fois, tu sais, on a plusieurs années d'expérience, là. Des fois, la réponse, t'as une bonne idée de qu'est-ce que ça peut être, mais en même temps, tu sais, j'ai jamais... eu la prétention d'avoir réponse à tout là, parce que j'étais le PDG. Fait que souvent, je pense, puis des fois, mon équipe me fait changer d'idée, mais des fois, par mes questions aussi, je les amène à un endroit, puis on réfléchit ensemble. Fait que moi, je pense que c'est beaucoup plus dans mes années aussi, quand que je travaillais en équipe, je pense qu'on le fait un peu inconsciemment là, quand on est à l'école, mais je pense que d'aller chercher le meilleur des gens puis d'influencer les gens, c'est beaucoup ça le leadership.
En terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, M. Martel?
Là, j'ai beaucoup de défis encore chez Bombardier. Ça va très, très bien.
Oui.
J'ai une équipe extraordinaire qui travaille avec moi. On a fait beaucoup de progrès. On a encore du travail à faire. Je pense qu'on veut grandir notre business de défense. On a une business aussi d'avions usagés qu'on est en train de grandir, continuer de développer. Puis moi, je suis toujours extrêmement fier comme Québécois, comme Canadien, de faire rayonner, tu sais, cette entreprise-là. Vous savez que chez Bombardier, 95% environ de nos revenus viennent de l'extérieur du Canada parce que on est des exportateurs, tu sais, on exporte nos avions souvent. Bon, oui, il y a des Canadiens qui en achètent, mais c'est 5% de nos ventes environ par année. Mais notre opération, elle est complètement québécoise et canadienne. T'sais, on fabrique presque tout ici et on crée beaucoup, beaucoup d'emplois. Alors, pour moi, c'est de continuer de croître Bombardier. Ça permet au Québec puis au Canada de continuer de croître, de créer des emplois ici. Puis ce que je souhaite, c'est de continuer à en créer puis d'en créer davantage.
Excellent. Ben, c'est ce qui conclut notre entretien, M. Martel. Je vous souhaite des défis stimulants et beaucoup de succès à la tête de Bombardier. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Et encore une fois, félicitations pour le prix Grand Diplômé qui vous est décerné.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien.
Cet entretien avec Éric Martel, lauréat du prix Grand Diplômé, a été réalisé le 26 février 2024 dans le cadre de la reconnaissance Les Remarquables de l'Université Laval.